peut sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, ça sort de chez vous,
je sors encore plus.
T'avais la fête, t'avais les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette.
La culture,
c'est pas. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Sortez,
vous voulez sortir.
Au chien bleu,
c'est
le
veto.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Vous sortiez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme d'habitude accompagné de Marie. Salut Marie.
Bonjour, bonjour.
Et pour contextualiser cette émission, il s'agit de la première interview autour des femmes dans le secteur culturel et l'innovation. Dans une série engagée pour l'égalité professionnelle, cette série a été initiée par Geoffrey, un service civique, au sein de la compagnie de danse Mobius Band et en charge de l'égalité. Merci à toi et bienvenue, on est content de pouvoir accueillir ce projet.
Bah bonjour, je suis super content d'être là, c'était super important pour moi de faire ça, et je suis super content que nos deux structures ont réussi à pouvoir s'organiser pour partager ce moment. Du coup je suis super content, et juste petite modification, c'est pas compagnie de danse, c'est une compagnie de théâtre.
Compagnie de théâtre, pardon. Et donc aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Marilyn Calvo, programmatrice et coordinatrice de projets artistiques et culturels au Temps Machine, et Catherine Lenoble, directrice de la FUN, la fabrique d'usage numérique. Bonjour à toutes les deux et merci beaucoup d'avoir répondu présent.
Salut. Salut, salut.
Et du coup déjà je suis super content, trop content de vous voir, d'être là, écoutez, on peut commencer par une petite présentation de ce que vous faites. Marilyn, t'es programmatrice au Temps Machine, scène de musique actuelle. Est-ce que tu peux nous résumer ton métier en trois mots?
En trois mots, ça va être compliqué. concert, accompagnement. Non, en vrai, je suis programmatrice. Enfin, l'intitulé de mon poste, c'est programmatrice / coordinatrice du projet artistique et culturel. Ce qui signifie que je chapeaute aussi avec une équipe les actions culturelles et l'accompagnement. Donc voilà, je travaille avec Nathan qui fait l'accompagnement et qui travaille avec moi sur la scène locale, et avec Baptiste et Mylène, notre service civique, qui travaille sur les actions culturelles et le jeune public, et voilà, et la recherche de concerts.
Ok, trop génial. Et donc du coup, on a ici une nouvelle directrice. Tu as inauguré la FUN, la fabrique d'usage numérique, il n'y a pas longtemps. Comment ça va?
Un peu en compote, mais ravie d'être là. Merci aussi, Geoffrey, pour toute cette organisation. Donc, je ne suis pas nouvelle directrice, c'est l'association qui a atterri dans un nouveau lieu. Moi, je suis là depuis plusieurs années dans cette association. Le Fab Lab, c'est un atelier partagé de fabrication, de culture technique et de culture numérique. Et donc, l'idée de faire vivre cet atelier avec plutôt des projets un peu laboratoires qu'on a du mal à mettre dans des cases habituelles. Donc nous, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qui est justement pratique hybride. Et donc, mon métier consiste à faire exister un petit peu tout ça avec de l'emploi, des bénévoles, des artistes et toute une communauté d'adhérents et des publics.
Ok, trop génial, merci de nous dire tout ça. J'ai une petite question par rapport à ce qui vous a motivé à choisir votre domaine d'activité ou votre profession. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, dans un souvenir que vous avez vécu et qui vous a vraiment donné envie de faire votre métier?
Alors, moi j'ai toujours aimé la musique en fait, j'ai des souvenirs depuis que je suis gamine, hein. Enfin bref, mais le métier de programmatrice déjà, il n'y avait pas de femme, donc j'ai jamais imaginé faire ce métier en fait, mais par contre, oui je faisais très tôt, j'ai fait des compiles sur les cassettes pour mes copains, copines, enfin j'étais souvent celle qui conseillait les nouveautés, donc je pense que j'ai toujours été un peu là-dedans, mais le métier s'est dessiné plus tard.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de programmatrices, en tout cas moi j'en ai rarement vu, et c'est assez impressionnant quand on regarde un peu sur les scènes de musique actuelles, c'est assez récent l'arrivée des femmes dans le métier de programmatrice, et du coup c'est super génial de te voir à ce poste-là au Temps Machine, qui est du coup une structure qui n'est pas très loin de chez nous, et du coup c'est super cool.
Donc j'ai essayé de réfléchir et en fait je pense que si, il y a quand même un moment et un contexte. Bah, du coup, je suis originaire de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et c'est dans cette...
J'ai un pote aussi de Cholet.
Hey, voilà. Salut le pote de Marie.
C'est Emilien Rousseau, si tu nous écoutes.
Si tu nous écoutes. Et donc, au lycée, je fréquentais déjà un des rares équipements culturels accessibles dans une ville de taille moyenne qui est Cholet. Et j'y allais parce que j'avais aussi des amis artistes qui commençaient à avoir des possibilités d'accéder à cette scène. Et je me souviens avoir eu ce moment de me dire, mais ça doit être chouette, en fait, de gérer un lieu comme ça. En fait, ça a été ma première réflexion de me dire, mais en fait, passer sa journée à finalement accueillir des artistes, des publics, etc., faciliter ces croisements. Et ça remonte il y a un petit moment. Et donc après, je me suis dit, mais comment on fait pour trouver des formations? Et il y en avait peu. Mais ça, c'était au XXe siècle.
Oui, t'es direct pensé à ce genre de... Ouais. Oui, parce que moi, pour la petite histoire, c'était plus du côté artiste, tu vois. J'ai commencé par mixer de la techno dans des raves, par exemple. Donc,
trop cool.
Ouais. C'était une de mes nombreuses vies. Mais je pense que, voilà, dans ces métiers-là, de toute façon, culturel, quand tu es une femme, bon, maintenant, ça commence, comme tu disais, à se tasser un peu. Et heureusement, on pense un peu plus à la parité, mais je pense que tu devais faire preuve un peu d'ingéniosité, plus que maintenant.
À l'époque, c'était évidemment un homme qui dirigeait cet établissement culturel. Enfin, en fait, j'ai quand même cherché à me dire, en fait, comment on fait pour faire ce métier-là. Et je ne me suis pas, je me suis pas dit qu'il était genré. En tout cas, j'ai cherché à me faufiler, à trouver en fait quel pouvait être le parcours. Et pour le coup, moi, c'est plutôt, pas parce que j'avais une pratique artistique moi-même, mais parce que j'avais besoin de trouver des espaces comme ça dans ma ville et de s'assurer qu'en fait ça puisse tout simplement exister. Et je pense que c'est justement super important qu'il y ait, un peu ces binômes justement de gens dans la culture qui font la culture et des artistes et des publics aussi pour que ça existe.
Et alors pour retracer votre cheminement professionnel, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire votre parcours et les différents postes que vous avez occupés?
Je me lance. Alors, les différents postes, je pense que j'ai fait tous les postes possibles et inimaginables dans la culture, à savoir j'ai commencé en communication, les femmes. j'ai été technicienne, j'ai appris, j'ai longtemps eu mon statut d'intermittent aussi, d'intermittente. J'ai fait du tour management, c'est-à-dire que je suis partie avec des groupes sur la route. J'ai donc plutôt régie. Enfin, j'ai eu un peu toutes les casquettes. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, j'ai tout fait, quoi.
Et Catherine? Non, quand même pas. Ça fait un peu prétentieuse. Mais en vrai, oui. Enfin, j'avais pas trop le choix. En vrai.
Je réalise que je n'ai jamais candidaté à un poste et que j'ai toujours fabriqué mon emploi. Donc ça, c'est peut-être du fait d'être dans ce secteur un peu hybride à la croisée des pratiques artistiques, culturelles et du numérique. On a toujours mon premier emploi date de 2004. Et à ce moment-là, les pratiques numériques, on voyait ça plutôt comme, des tuyaux, de l'aménagement. Mais on était déjà, certaines à avoir l'intérêt d'avoir des pages web pour des artistes. En fait, souvent, c'est venu même plutôt... du champ de la vidéo et de la musique. En tout cas, mon premier emploi dans cette association qui s'appelle Ping à Nantes, c'était avec des personnes qui étaient formées plutôt sur de l'administration réseau système, mais qui avaient des pratiques artistiques dans le champ vidéo de la musique et qui ont eu envie de se saisir du numérique pour déployer ça plutôt dans le cadre d'une association culturelle. Et donc moi, je suis arrivée plutôt avec... mon petit bagage, mes outillages de quelqu'un formé à l'ingénierie culturelle à l'université de Lille 3. Moi, ce qui m'a plu, c'est de mettre un peu cet outillage de développement de projet un peu couteau suisse 360 pour des projets tout de suite un peu hybrides, laboratoires, de niche, dans les marges. Et dans ces cas-là, bah, il n'y a pas de fiche de poste, on candidate pas. En fait, on rentre dans une asso, on trouve ça chouette, on commence à monter des projets et puis on s'invente son poste. Donc c'est ce qui a été mon cas dans cette association à Nantes de 2006 à 2012. Ensuite, j'ai eu besoin de faire une petite pause pendant 5 ans pour mener mes projets artistiques et voilà, développer mes petites collabs et voyager un peu à l'étranger avec des projets. Et puis ensuite, je suis arrivée à Tours. Et à Tours, j'ai fait la même chose au sein de l'association La Fun. J'ai aussi créé cet emploi, puis d'autres. Donc c'est encore, d'autres façons, je dirais, de se dire, pour répondre à ces questions de peut-être où sont les femmes ou comment on fait quand il y a de la place ou pas, on peut se l'inventer aussi, on peut se fabriquer donc ça s'est fabriqué, je mesure dans le temps plutôt avec des grands frères dans le temps, c'est-à-dire que j'ai peu côtoyé de femmes dans ce milieu un peu hackerspace, associative, culture numérique. Enfin, en tout cas, j'ai manqué de sœurs. Et c'est maintenant un peu plus depuis, je dirais, 5-6 ans qu'on a plutôt des collectifs où il y a plus de femmes et de minorités de genre dans ce milieu. Et voilà.
Je pense que c'est tous les milieux pareils, hein, dans la culture. Enfin, moi, c'était pareil.
Et donc justement, pour faire un état des lieux, aujourd'hui dans le secteur culturel, on en est où dans la recherche d'égalité homme-femme ? Quelles sont les problématiques auxquelles on cherche à répondre ?
Les problématiques déjà, c'est que... Enfin, alors moi je parle de l'endroit où je me situe. Hein. Déjà, c'est qu'il y ait plus de femmes sur scène, pour qu'il y ait plus de représentation, et donc plus de jeunes filles, jeunes femmes qui aient envie de faire les mêmes choses en fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Si, complètement.
À ma place, plus de programmatrices, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'études en fait. Sur la programmation, tu apprends sur le tas, c'est un métier qui est très particulier, relatif à la personne, donc c'est encore compliqué. Par contre, moi je sais que je fais beaucoup d'entretiens avec des jeunes femmes qui ont envie de faire ce métier pour donner des tips, justement, parce que moi j'ai tout appris sur le tas, on ne m'a jamais aidée. Donc. Si je peux permettre à certaines à gagner du temps, bah, je le fais avec plaisir. Il y a notamment plein de projets de mentorat qui se forment. Moi, j'ai fait partie d'un tout premier qui s'appelait WA, monté par la Fédélima, la Fédération des lieux de musique actuelle en France. Et ensuite, voilà, on parle de la parité aussi, mais c'est quelle femme ? Et donc, moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est la parité, mais aussi la mixité. C'est à savoir... les femmes, des artistes qui viennent de partout et défendre haut et fort toute la population, en fait, que tout le monde puisse avoir accès à une scène et pouvoir s'exprimer, c'est hyper important. Voilà, je sais pas si je...
Et Catherine, t'en parlais, tu disais qu'il y a de plus en plus de femmes et que c'est encore un peu timide. Oui. Dans le secteur numérique, quel bilan on peut faire ?
Oui. Alors c'est vrai que évidemment, je pense que pour rejoindre Marilyn, ce que tu disais, enfin voilà, c'est même on a un peu les mêmes constats peut-être parfois d'avoir été plutôt dans des contextes où il y a plutôt des hommes, des grands frères. C'est vrai que pour situer dans le numérique, on va dire un peu cette trajectoire là partagée et donc en effet on est aussi sur des problématiques où en termes de métier, par exemple, si on prend le cas de là, je prends vraiment la situation actuelle dans un Fab Lab, si on veut parler d'un poste, on dit qu'il y a des animateurs, animatrices d'ateliers, donc dans le jargon on parle de Fab Manager, Fab Manageuse, il n'y a pas vraiment de formation. En tout cas, c'est vraiment sur le tard qu'il y a un diplôme universitaire qui existe, mais que depuis quelques années. Il y a en effet peu de candidates. Donc après, je dirais ce qu'on essaie de faire, c'est d'être dans des propositions d'ateliers, des temps d'auto-formation. Actuellement, à la FUN, on essaie justement d'auto-former entre nous et de passer le relais un peu sur des pratiques pour, en fait, que le lieu puisse... puisse accueillir plus de femmes et de minorités de genre, de diversité, parce que, en fait, à l'accueil, dans le lieu vit aussi avec, avec cette diversité.
Oui, on y reviendra sur cette question d'attractivité. Dans vos parcours respectifs, quels obstacles vous avez rencontrés quant à l'égalité ?
Ah bah alors justement, là, moi, il y a un truc qui me fait tilt à chaque fois que tu, tu dis grand frère. Moi, je n'ai pas du tout eu de grand frère. Moi, c'est...
Mais t'étais avec qui ?
Non, mais du coup... Bah, c'est plus des insultes qui me viennent. Non, mais oui, enfin, clairement, c'est un milieu... moi, je viens de Perpignan, à la base. Et donc, le Sud, hyper macho, très sexiste, c'est pas forcément un cliché. Et en plus, dans la musique, donc on m'a plus mis des bâtons dans les roues qu'autre chose. La question, c'est comment on a contourné tout ça, c'est ça ?
Quels obstacles ?
Pour l'instant, les obstacles. Ouais, les obstacles.
Ouais, déjà, moi, j'en suis à... J'ai bien les obstacles qui sont là, évidemment. Donc, les obstacles, bah, c'est la formation et c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes et c'est le fait que ce soit un milieu d'hommes, en fait. Donc, déjà, ça, c'est un bon obstacle. Comment le contourner ? Alors, moi, personnellement, par exemple, j'ai monté mon association de meufs. Alors, je m'en suis rendu compte après. J'ai monté une association de copines pour, faire, pour organiser des concerts et se former nous-mêmes à l'intérieur. Et en fait, au moment où on s'est dit, bah, on va faire entrer des potes parce qu'ils avaient envie de participer avec nous, à dynamiser le territoire, etc., on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas envie parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait dans un cercle de nanas où on n'avait pas, où on ne nous apprenait pas la vie déjà et où on se sentait assez libre de faire ce qu'on voulait. Donc voilà, donc, moi je dirais que dans mon métier, les obstacles premiers, c'est bah, les zones de pouvoir qui sont masculines en fait. Alors après, peut-être qu'à force que les femmes, en fait, les zones de pouvoir vont changer. Ça, c'est mon côté pessimiste, mais j'ai souvent l'impression que voilà, quand les zones de pouvoir changent, je veux dire, par exemple, je prends l'exemple de, du secrétariat. Au tout début, le secrétariat était un métier d'hommes parce que c'était eux, les lettrés, etc. À partir du moment où les femmes sont arrivées, hop, c'est devenu pas un sous-métier, mais presque. Enfin, voilà, donc j'ai l'impression que souvent, on se dit « Ouais, trop bien, on avance !» et que quelques temps après, on a quand même un petit retour de bâton qui est un peu embêtant. Donc, à voir. Moi, je dis que plus de programmatrices, c'est bien, mais il faut aussi plus de directrices, plus de metteuses en scène, plus de compositrices. Dans le rap, il faut plus de femmes qui font du beatmaking aussi. Enfin, voilà, il y a encore du boulot.
Et Catherine, des obstacles particuliers ?
Oui, alors peut-être, je sais pas, c'est pas un obstacle, c'est plutôt la problématique que j'ai rencontrée très tôt dans ce milieu. Donc certes, voilà, je peux parler de grands frères parce que peut-être dans le milieu un peu culture collaborative, open source, où on est dans l'entraide, le partage. Justement, cette question de genre, c'est plutôt en fait, tiens, t'es là, on a envie d'apprendre. Et du coup, voilà, c'est plutôt pour quand même partager que ça, ça existe et que c'est chouette aussi de pouvoir le dire, le partager. Mais finalement, comment dire, c'est aussi chemin faisant, tu réalises que l'histoire dans laquelle tu baignes, donc ça c'est plus globalement, mais pour parler des cultures de l'Internet, de l'histoire de l'informatique et donc plus, finalement, plus globalement l'histoire des techniques, etc. Mais ben, je me rendais bien compte que, voilà... comment dire, il y avait peu de femmes, comment dire, la contribution des femmes à cette histoire. Donc là, je parle pour situer les cultures de l'Internet, l'histoire de l'informatique, puisque moi, je me sentais à cet endroit-là je voyais bien qu'on n'était pas nombreuses. Et chaque fois que tu dépiotes un peu l'histoire, bah, tu te rends compte que des femmes, il y en a eu, mais qu'en fait, ce sont des récits assez invisibilisés. Donc pour moi, mais peut-être c'est pour répondre ou ouvrir un peu la question, l'obstacle, enfin ce qui fait obstacle aussi, c'est finalement la contribution des femmes, puisqu'elles sont là, elles ont toujours été là, et c'est l'invisibilité de leur contribution qui est très problématique, parce qu'en fait, que ça soit en 2004, en 2014, en 2024, enfin, en fait, on se heurte toujours à ça. Et donc, pour, comment dire, pour ne pas être que dans le enfin dans des voilà dans des visions un peu comment dire négatives, parce qu'en fait il faut chaque jour je pense se dire en fait qu'est-ce qu'on de une fois qu'on dit ça ce constat moi c'est ce qui m'a amené à aussi développer de, comment dire de la des ateliers pour écrire des pages de femmes sur Wikipédia, donc je le fais comment dire dans le cadre de mon boulot mais dans d'autres contextes aussi qui est une façon en fait donc pas que dans mon secteur, mais de façon générale, en fait, savoir qui était là et qui avait déjà de, comment dire, de la diversité. Mais cette diversité, on ne connaît pas ces récits. Donc je trouve que l'invisibilisation des femmes et des minorités de genre, c'est un vrai obstacle aussi pour avancer.
Merci à vous pour cette très belle présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur. On va faire une petite pause musicale sur Radio Campus Tour. Que va-t-on écouter, Marie ?
On écoute une suggestion de Marilyn, c'est Cumbia del Monte Fuji de Mino Crusaders.
Oh,
Vous venez d'écouter Cumbia del Monte Fuji de Minio Crusader sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. On s'intéresse de plus près à nos invités du jour sur le thématique, on va dire, du plafond de verre dans les industries culturelles et de l'innovation. Et je passe la main à Geoffrey.
Bonjour. Alors, je vais parler un petit peu parce que c'est assez important. En fait, dans cette série d'interviews engagées, ce que j'ai voulu prioriser comme biais d'analyse, c'est le plafond de verre. Alors, le plafond de verre, c'est quoi ? Bah, c'est un concept sociologique, tout d'abord, qui désigne le fait que dans une structure hiérarchique, bah, les niveaux supérieurs, ils ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes, essentiellement des femmes. Et bon, alors ça, c'est vraiment la définition Wikipédia. Je pense que pour essayer de bien comprendre comment ça s'organise, il faut imaginer une pyramide avec plusieurs strates, plusieurs classes de personnes. On commence par, bien évidemment, les employés ou salariés, et on va petit à petit de plus en plus haut jusqu'à tomber au cadre supérieur. Et il arrive un moment où, pour certains individus qui subissent des discriminations, eh bien, il y a une couche solide qui se forme, le plafond de verre, et qui empêche ces individus d'accéder à des postes à haute responsabilité ou de responsabilité. C'est souvent, du coup, le cas des femmes, mais c'est aussi intersectionnel. Donc, ça peut être le cas de personnes racisées ou encore de personnes qui ne correspondent pas aux normes de la société. Pardon. Forcément, ce plafond de verre, il ne se crée pas comme ça. Il est dû au biais des individus qui véhiculent via des discriminations ou du harcèlement et qui le crée, mais aussi à cause de stéréotypes, parce que oui, ça peut être aussi complètement inconscient. Par exemple, si on prend l'exemple des femmes, eh ben, les stéréotypes du genre « elle est trop gentille, elle est trop calme, elle ne serait pas capable de manager une équipe », ça crée du plafond, et ça en crée même énormément. Donc, c'est important de le préciser, et Marilyn, tu en as parlé tout à l'heure, tu as commencé en fait tu as parlé de discrimination, de remarques sexistes que tu avais pu te prendre. Ça, j'imagine que ça a dû vraiment handicaper ta carrière, et même tu as dû subir des grandes, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots, pardon.
Non, mais t'inquiète pas. oui, bah, de toute façon, j'imagine que je suis pas toute seule, hein. Mais oui, tu subis des discriminations, mais en fait, quand tu es jeune, alors maintenant, je trouve qu'on se saisit plus de ces questions, et tant mieux. Mais moi, en tout cas, quand j'étais jeune, j'avais pas conscience que c'était de la discrimination parce que j'étais une femme et compagnie. Donc, je ressentais de l'injustice. J'étais en colère, ce qui m'a permis de... Bon, alors, j'ai perdu du temps, certes, mais cette colère et cette frustration s'est transformée plus en moteur qu'autre chose parce qu'au fond de moi, j'avais envie de faire ce métier-là. Après, effectivement, quand tu parles de plafond de verre, on parlait des métiers. Alors, dans la culture, voilà, moi, je suis programmatrice, mais il y a quelques femmes. Mais, par exemple, sur les postes de direction, ça manque encore énormément de femmes. Voilà.
Totalement. J'ai même des petits chiffres là-dessus, pardon. Des petits chiffres là-dessus.
Oui, Jamy.
parce que, oui, du coup, le titre de l'émission, enfin, de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Femmes dans les structures culturelles et d'innovation ». Du coup, j'ai un petit peu cherché. Et en fait, il faut savoir que c'est deux secteurs qui sont touchés par l'inégalité, mais pas exactement de la même façon. Par exemple, pour le secteur de la culture, ça, c'est les chiffres d'HF+, en 2018, qui est donc, du coup, un collectif qui lutte contre les discriminations professionnelles. On voit que par exemple, il y a les femmes dans le conservatoire de musique, elles sont présentes à 55%. Mais quand on regarde le découlement de ces études, elles sont que 1% compositrices.
Oui, sur la professionnalisation, c'est sûr qu'il y a un gros souci, oui.
Et 7% chefs d'orchestre, c'est que dalle, c'est rien du tout. Et si on regarde sur les directions de scènes publiques, que ce soit les scènes de musique actuelles, les centres chorégraphiques nationaux ou même les centres dramatiques nationaux, elles sont toujours inférieures à peu près 20%, ce qui est très très peu. Elles n'arrivent pas du tout à s'imposer. Alors aujourd'hui, notamment les centres dramatiques nationaux, ça commence à se décamper un peu, mais c'est toujours très compliqué pour les femmes de s'imposer dans ces postes de direction. Alors pourtant, elles font totalement des tâches de directrice. Reine Pratt, donc haute fonctionnaire, sur lequel, dans le livre Exposer le plafond, qui est juste ici, j'ai pris le nom de son livre pour m'inspirer de l'émission. Elle actait que, en fait, dans ces scènes publiques, les femmes participaient grandement à la vie et dans la direction de ces structures, mais n'avaient jamais le rôle administratif, hein, le pouvoir en fait, de gérer ces actions. Par exemple, quand le directeur était absent, c'était bien évidemment les administratifs qui se chargeaient de ces tâches et ces missions. En fait, dans le milieu de la culture, ça n'a jamais été une raison de capacité. Ça a toujours été une raison structurelle qui a mené, notamment à cause du statut d'artiste, qui a mené à ce que les femmes soient toujours mises au second plan dans la direction. Et on retrouve un peu le même phénomène dans l'innovation, même si c'est un peu plus différent, parce que bon, là, on l'a vu pour le culturel, les femmes sont très présentes dans les études, mais dans les emplois, c'est pas le cas. Là, c'est directement dans les études qu'il y a un problème. Par exemple, dans les formations d'ingénierie, il n'y a que 30%, enfin, il y a un peu moins de 30% de femmes, ce qui est très peu. Et en fait, c'est la formation qui a le moins de femmes en décompte égalitaire. Si on regarde au niveau des nouvelles start-up dans les milieux de la tech, c'est que 10% de ces nouvelles start-up qui sont dirigées par des femmes. L'écart salarial dans ce milieu est élevé à 21%, ce qui est beaucoup plus que dans n'importe quel secteur. Est-ce que ça vous fait réagir, ces chiffres ?
C'est une honte !
C'est une honte. Ouais, rembourser. C'est surtout que, comment dire... je me dis que ça n'a pas trop décollé, changé le ratio en fait depuis plusieurs années. En fait, on est un peu sur ces mêmes proportions. Je pense que c'est ce que disait déjà Ren Pratt dans ses rapports en 2009, qui ont donné naissance au mouvement HF, qui publie des enquêtes et où les chiffres sont, comment dire, enfin. Voilà, il y a quand même des petites, il y a des avancées à des endroits où il y a peut-être plus de femmes et de diversité, voilà, dans des disciplines, dans des pratiques artistiques. Mais en effet, c'est toujours la problématique de plus on va, dans les responsabilités. Il y a la question d'accéder à ces postes. Mais il y a aussi la question, le sujet d'y rester. Parce que, comment dire, déjà, y accéder est une chose. Et comment dire, finalement, il y a, voilà, c'est la route est longue. Il y a peu de, comment dire, voilà, on le sait, ça démarre très tôt par des freins, des obstacles dans l'orientation. Puis dans le parcours d'enseignement où tu as moins de, je sais pas comment dire, tu as moins de d'émulation, de modèles, d'opportunités. Et puis quand tu y arrives, ça peut être aussi très lourd, très compliqué ensuite en tant que professionnel sur des postes de direction.
D'où le concept de falaise de verre. Non, mais c'est un vrai concept. Oui. Hein. C'est de mettre des femmes sur des postes à difficulté. Quand la boîte est en difficulté, ou l'entreprise ou l'association, et en fait, mettre une femme dans un moment de crise, ça permet aussi de dire, bon, ben voilà, en fait, on a essayé.
Ouais. Voilà, on met un peu de quota, un peu de diversité. Ça devient aussi, en fait, caution. Et pas du tout pour, le projet en lui-même et la façon d'incarner aussi, de prendre en charge toutes ses responsabilités. Donc, je trouve qu'il y a une vraie problématique aussi sur le temps de la carrière, ou le fait de rester, parce que si c'est pas, des embûches, des obstacles, des difficultés dans la vie professionnelle, il y a aussi... Il y a comme des liens aussi avec la sphère personnelle où, on peut aussi être parfois corréler ça aussi à des difficultés de femmes qui peuvent être à la fois directrices, femmes seules ou isolées, ou avec... Enfin, on peut aussi mettre tout un tas de corrélations qui font que, en fait, à la longue, ça peut être aussi plus compliqué de rester en poste. Je me suis dit, est-ce que je parlerai ou pas de ça ? Est-ce que c'est important, je trouve, parce que cette sphère, cette sphère intime, domestique, parce que c'est plus ça que de la vie personnelle, en fait, c'est hyper politique, puisque c'est aussi là où s'exercent des violences qui vont aussi jouer aussi dans les vies professionnelles. Mais...
Oui, avoir un impact sur tous les aspects de la vie. Ouais.
Tout à fait.
Le Temps Machine organise régulièrement des tables rondes ou des formations professionnelles pour des discussions autour des femmes dans la culture. Est-ce que dans des structures avec des chargés de programmation essentiellement masculins, ces temps consacrés aux questions d'égalité, elles sont autant prises au sérieux ?
Waouh, la question...
Qui tue, oui, un peu.
J'ai du mal à saisir où tu veux en venir, c'est-à-dire okay. que...
Bah, là, du coup, enfin, je ne sais pas qui a initié ce projet, ces discussions-là, mais tu disais donc c'est un milieu quand même qui reste très masculin et l'aspect vraiment directionnel revient souvent aux hommes. Et donc, est-ce que dans des structures beaucoup plus avec une direction beaucoup plus masculine, ces questions-là sont prises autant au sérieux ?
Alors, bah, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir parler à la place des autres. En fait, nous, ce qui se passe au sein du Temps Machine, c'est qu'on est quand même, en fait, enfin, moi, je considère comme ça, mais on est quand même une entité militante qui militons clairement sur ces questions-là. C'est important. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait plus de femmes sur scène, etc. Oui. Peut-être que le fait que je sois une femme amène aussi ces réflexions plus au centre. J'en sais rien. En tout cas, pour le Temps Machine, on est quand même on est une équipe très, très soutenue. Enfin, l'équipe soutient. Après, effectivement, si on regarde dans la région, sur d'autres salles ou en France, je pense que ces questions sont prises au sérieux, mais peut-être pas traitées. Et c'est pas la même chose. C'est qu'on peut très bien constater que oui, effectivement, en formation... Enfin, je prends l'exemple de nos studios. On a 20% de femmes dans les studios. C'est vraiment très peu. En amatrice, on a zéro amatrice. En fait, on ne fait pas de la musique en tant qu'amatrice, en tant que femme. On fait de la musique pour se professionnaliser et on n'arrive pas à se professionnaliser. Donc déjà, c'est un problème. Et voilà. Et en fait, on peut se rendre compte de toutes ces parties partout. Donc voilà, de constater. Mais ensuite, comment on règle ce souci-là ? Donc je ne sais pas comment ça se passe dans les... dans le numérique, mais en tout cas, dans la culture, il est question de quotas. Donc la question du quota est mise en exergue de plus en plus et va peut-être être établie sur les salles. Donc moi, je trouve ça assez intéressant, tu vois, de réfléchir comme ça et de se dire, bon, bah, peut-être qu'il va falloir passer par des obligations pour obliger certains programmateurs à se poser la question de programmer plus de femmes. Sur l'embauche, c'est encore autre chose. Pour moi, il y a vraiment encore... C'est encore un peu touchy. Je sais que dans les salles labellisées SMAC... On a la DRAC qui pousse un peu à les femmes à postuler aussi au poste de direction. Parce que, comme disait Catherine, c'est pas le tout d'y accéder, mais il faut y rester. Mmh. Et il faut oser, en fait. Donc, il y a tout un travail aussi comme ça mené en ce moment.
Et quand tu dis pris au sérieux, mais pas forcément traité, mmh. comment on peut expliquer ça ?
Bah, je pense que faut se sentir concerné, peut-être, pour... tu vois, j'en sais rien. C'est
oui,
vraiment
c'est des suppositions.
C'est des suppositions, mais moi, ça me touche. Et en étant maman aussi, j'ai une petite fille, je me dis, bah, je veux qu'elle puisse faire tout ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Quand je vois des jeunes filles qui nous disent « Ah, mais ça, je pourrais pas utiliser cet instrument ou faire de cet instrument », je trouve ça bizarre et je me dis comment on peut remédier à tout ça, etc. Avec l'équipe, on a réfléchi à monter, par exemple, un girl camp pour susciter des envies et des vocations. Enfin, je pense que, voilà, en fait, le tout, constater les choses, c'est la première étape, mais ensuite, il faut réfléchir tous ensemble, tous et toutes ensemble pour dépasser en fait ce constat-là. Et je pense que là, pour l'instant, on est dans une espèce de flottement entre le constat et la prise en main, vraiment. Alors effectivement, après, il y a des actions pures et dures, comme Catherine disait sur le matrimoine. Réécrire le matrimoine, c'est hyper important. Bah, voilà, nous, ça peut passer par une soirée comme Ceci n'est pas un barbecue qu'on co-organise avec la guilde où il n'y a que des femmes de A à Z sur la scène, sur la technique, au bar, à l'accueil artiste, en régie, etc. Donc, c'est aussi montrer au public que c'est possible. En fait, tu vas dans une salle de concert, bon, ben, l'accueil public, c'est les femmes, elles ne sont pas qu'à l'accueil public, par exemple. C'est cliché ce que je dis, mais des fois, c'est ça. Et voilà, et voir une femme au son ou à la console lumière, ça peut surprendre parce qu'on n'a pas l'habitude en fait. Donc voilà, c'est un travail au quotidien, j'ai envie de dire.
Et au sein de la FUN, du coup, est-ce qu'on a le même constat, notamment par rapport à la parité homme-femme ?
Ouais, alors je me dis, c'est comme tout à l'heure, il y a eu la question, la réponse de Marilyn, je suis en train de prendre des notes, comment j'y réponds, il y a des trajectoires. En fait, j'avais envie de rebondir sur le fait que c'est vrai que la fun, du fait qu'on, comment dire, on est un peu un objet hybride, je pense qu'on s'auto-déclare comme un acteur culturel, mais on n'est pas reconnu comme tel. On est à cheval entre éduc-pop, jeunesse, insertion. On est voilà, un peu multicase, transdisciplinaire, tout ça, tout ça. Ce qui veut dire que c'est peut-être pour ça qu'on peut oser et se fabriquer des postes de direction. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment juste... ça pourrait être un poste de coordinatrice, je ferais la même chose. Hein.
Ouais, mais tu n'aurais pas le même salaire, peut-être.
Oui, après, il y a des... j'ai été coordinatrice dans l'asso, donc tout ça, c'est un peu... justement, on a eu des réflexions un peu sur... justement, sur des politiques salariales. Et puis, en vrai, le salaire, c'est... on pédale pour notre salaire. Donc, en fait... on choisit le salaire qu'on peut se rémunérer aussi. Donc, ce n'est pas que ça vient de quelque part. En fait, c'est ce qu'on peut faire aussi. Enfin, tout ça pour dire que c'est un peu un drôle d'objet comme association. C'est aussi, pas facile dans le temps de faire durer et de rester. On n'est pas, c'était sur la question des quotas ou des... En fait... comme on n'est pas dans ces cases d'acteurs culturels avec les questions de dégâts conditionnalités, en fait, on s'interroge déjà, on est de nombreuses structures à avoir constaté, depuis 5-6 ans, cet effet de libération de parole et de dire aussi qu'en effet, la culture technique est hyper genrée. Que faisons-nous dans ces lieux, dans nos lieux? Donc, c'est vrai que ce sont plutôt dans des structures associatives, donc de type Fab Lab, gérées ou animées par des femmes, que se sont mis en place un peu des réseaux un peu d'entraide. Donc, on a créé d'abord un réseau informel, puis une asso, puis un festival distribué. C'est par des actions que l'on mène, festival, fanzine. Là, on a fait récemment une sorte de livret de documentation, de guide pour aborder les façons dont on peut diversifier les publics, peut-être juste parce que en fait, j'arrive pas à répondre à cette question de quota parce qu'elle fait pas partie de mon l'aborde plutôt.
Que vous avez, enfin nous le quota en vrai, c'est moi je pense qu'il est nécessaire de passer par le quota pour des gens qui sont soucieux mais qui ne font rien de ce dont on parlait tout à l'heure. Je ne fais rien. Nous, on se pose déjà la question, toutes ces questions-là, on s'est posé déjà la question. Pour moi, c'est un combat quotidien d'avoir la parité. Oui. C'est difficile, mais on se pose déjà la question. Donc, le jour où les quotas vont arriver, moi, je sais que, on aura moins de mal que certains.
Oui, c'est sûr. Mais en effet,
chez vous, il y a peut-être d'autres manières dans ce milieu-là, de mettre en place des choses qui permettent peut-être de lutter plus pour la parité.
C'est la formule de là, c'est de façon plus générale, la dimension peut-être institutionnelle. À titre personnel, c'est le mot. En fait, où je me dis fondamentalement qu'on travaille dans ce milieu-là, peut-être la réflexion plus globalement, c'est tout le temps de chercher aussi à inspirer, à diversifier ces publics et je me suis pas confrontée à cette formule-là, quand bien même nous y travaillons. Tout le temps. Et je pense qu'on est, assez nombreuses et nombreux.
Vous êtes une forme associative.
Oui.
Comme nous. Donc, je pense que dans le milieu associatif, tu as quand même ces questions-là qui traversent régulièrement. Enfin, il y a quand même un aspect un peu militant, je trouve. Je sens qu'il y a une question qui va arriver. On s'arrête plus sinon.
C'est que c'est assez difficile de rebondir sur tout parce qu'il y a plein de points différents qui sont évoqués. Mais c'était pour rebondir sur notamment les femmes régisseuses. Donc il y en a très peu. Mais est-ce que. Alors c'est pas pour dire le monde est contre les régisseuses, mais est-ce qu'il y a moins de confiance aussi accordée à une femme en régie?
Alors. J'essaie de
prendre dans un espèce de sexisme latent.
Ouais, la globalité du métier. Bon, alors maintenant, ça se voit moins. Enfin, sur les tournées, en tout cas, nous, les équipes artistiques qu'on accueille, il y a de plus en plus de femmes régisseuses. Il y a ce truc peut-être un peu d'organisation. Enfin, voilà, il y a les tourneurs, en tout cas. Enfin, tourneurs pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est les gens qui vendent des artistes, donc à qui nous achetons et qui s'occupent des artistes. On a de plus en plus de femmes et ça fait plaisir. Non, là où on a beaucoup de mal encore, c'est plus sur l'ingé-son. Vraiment sur le son, autant sur la lumière, il y a beaucoup de femmes. Sur la régie, il commence à y avoir beaucoup de femmes. Sur le son, vraiment, on sent que c'est un... Mais c'est comme le beatmaking, j'en parlais tout à l'heure, sur le beatmaking en rap, par exemple, ou en production musicale, ou en mixage d'albums. Il y a vraiment des postes comme ça, clés techniques, très techniques, où les femmes sont encore peu nombreuses. Je ne sais pas si c'est une question de confiance. Je pense que c'est une question de formation. Et la régie, non, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur le terrain et qui vient avec l'expérience. Et non, la régie, je te rassure sur ce point-là, il y a de plus en plus de femmes régisseuses. Donc ça, c'est cool.
Mais il en manque au mixage son.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Donc ouais, Samuel me faisait des grands signes. Vite, faut faire une pause. Donc on en sait déjà...
Ah, c'est clair, il était debout sur la table. Hein,
on va faire donc une nouvelle pause musicale avec quatre fiches de la très grande Doichi, qui est grande, oui, très grande, ouais, très, déjà très grande.
On the track list, body so attractive, y'all be giving catfish, log them off the web and every gangster's giving actress, gangsters giving actress and all these fake activists, leave me baffled, bewildered, relax a bit, let me relax a bit, I think I need to cool it off, I put some pep up in my step and then I do it up, I try my cutlery and hit my jeweler up, tell the bitch hoorah, step up in this bitch, I look too fly, cop the Dior shit on Ventura, took a midnight
Doichi et son titre 4 fiches sur Radio Campus Tour. Vous écoutez l'émission Sortez et avec nous Marilyn Calvo et Catherine Lenoble. Pour briser ce plafond de verre, on en a parlé un peu des actions menées par chacune de vos structures. Quelles sont-elles ?
Waouh ! Alors, attends. Nos structures, comment font-elles
Pour briser le plafond.
Bah écoute, quand j'aurai pris la place du directeur, je te dirai. Non, Audran, si tu m'entends, c'est pas du tout. En vrai, alors bah, moi déjà, ils m'ont embauché, donc je vais pas me plaindre, hein, tu vois. Enfin, non, mais en tant que programmatrice, il n'y a pas beaucoup ce qu'on disait, donc. Je suis plutôt contente, je ne sais pas, vous faites comment dans ton assaut ?
Non, je ne sais pas, je me dis, je vais prendre un exemple concret, une action. Donc j'ai avec moi, j'ai emmené le livre de Ren Pratt, Exploser le plafond.
Elle va nous lire 4 pages.
Et une action très concrète, c'est que... on a mis en place un atelier Wikipédia pour écrire la page de Ren Pratt. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré le collectif HF à Tours en 2020...
Elle n'était pas écrite
En fait, la première chose, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. En fait, on sait que le mouvement HF au niveau national, avec des créations d'assauts dans chaque région, etc., tout ça, c'est né des rapports de Ren Pratt aux fonctionnaires en charge au ministère de la Culture avec cette mission égalité, donc d'écrire des rapports. Donc, c'était en 2009-2010. Si on compare des hommes qui auraient le même parcours que Ren Pratt, en fait, des collègues, ils ont tous déjà leur page. Bon, bref, j'ai commencé
peut-être
à...
Peut-être que c'est eux qui l'écrivent, en fait.
Ça fonctionne pas exactement comme ça, mais ce qui m'a saisie au moment où j'avais envie qu'on mette en place des actions avec HF, mais je me suis dit, mais en fait, la première chose qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire à la FUN, c'est ouvrir l'atelier et aider chacune à se créer un compte sur Wikipédia se lancer des ateliers pour écrire la page de Ren Pratt. Donc il se trouve que Ren Pratt a un peu une histoire avec la région Centre-Val de Loire, Bourges, feu sa compagne Nathalie Magnan qui était prof à l'ESSA de Bourges, etc. Donc ça pour dire qu'on a été en contact avec Ren Pratt, ce qui a permis de dialoguer, d'obtenir de nombreuses archives, et ça a permis de mettre ça en collectif, en commun. On a écrit cette page à une dizaine de personnes. Enfin, je trouve que c'est important puisque c'était c'est très concret. Et c'était au moment où Ren Pratt en plus allait sortir son bouquin. Donc on a fait sa page Wikipédia. C'était en septembre 2021. En octobre 2021, on l'a invité à Tours à la librairie La Vagabonde. Et voilà, petite boucle bouclée en tout cas pour venir présenter son bouquin, exploser le plafond. Bon, par contre, elle écrit ce bouquin pour un petit peu pousser sa gueulante 10 ans plus tard. Les constats, ça n'a pas beaucoup changé.
Moi, j'ai quelque chose de très concret. Par exemple, au temps machine, sur 5 cadres, il y a 3 femmes. Voilà, donc... C'est assez concret.
C'est cool comme balance de
la parité. Voilà, je pose ça là. non, mais parce que je réfléchissais à la question quand même. Ouais.
À la FUN, on a aussi fait en sorte d'avoir une présidente, une autre collègue, d'auto-former des femmes. En tout cas, il y a un peu ce principe, mais l'idée, c'est pas de parler juste... on a envie que ça puisse justement inspirer et encourager d'autres, d'autres structures à le faire.
Et quand on travaille donc dans un secteur numérique et technique, est-ce qu'on est confronté à pas mal de mansplaining, surtout quand on fait de la mise en commun de ressources, donc avec des hommes qui veulent reprendre des utilisatrices sur la manière de faire, vouloir expliquer tout?
C'est un petit peu l'état des lieux dans l'association dans laquelle je suis arrivée, la FUN, le FUN Lab à Tours. Et je pense que c'est pas juste moi en tant que personne salariée, c'est aussi des retours que j'ai pu avoir de personnes, de public qui sont passées au lab. Ça prend du temps en fait de changer un peu la trajectoire, de donner un peu comme une sorte de trajectoire féministe ou d'amener un peu de développer une certaine culture du lieu. Et en fait, là, en 2025, on peut dire que ça arrive beaucoup moins en fait quand on est accueilli aussi par des femmes soucieuses aussi qui installent peut-être d'autres modes conversationnels d'accueil et de transmission. Mais ça reste très une constante dans ce milieu et d'autres, c'est un constat encore.
Parce qu'en plus, là, c'est dans un cadre associatif qui est plus que sensibilisé à cette question-là. Comment, de manière plus générale, c'est une question un peu existentielle de balle, mais comment on peut rendre donc, le secteur technique et numérique plus attractif pour les femmes? Quelles idées reçues il faut déconstruire?
Quelles idées faut-il déconstruire? Ben,
5 minutes.
Ouais, c'est ça. J'essaie juste de reboucler sur ce que je disais avant. Déjà, en fait, le fait d'avoir, transformer un peu en interne, enfin, ou en tout cas, transformer l'association, essayer de faire en sorte d'avoir une culture du lieu, de l'accueil. Enfin, je dis juste cette première chose parce qu'en fait, ça change tout, en fait, d'ouvrir la porte d'un lieu et, de changer en fait ces clichés, de pas voir que des hommes dans un atelier à côté de machines. Je sais pas comment ne pas répondre plus longtemps, mais il y a une question de représentation, de représentativité. On fait attention aussi dans éléments de communication, aussi dans nos photos, de donner à voir des publics jeunes, enfin de montrer des pas que des stéréotypes geeks, techniques, gros ordinateurs, grosses bécanes. Enfin, je pense qu'il y a un univers visuel aussi à déconstruire et puis une modalité d'accueil.
Vous faites des ateliers aussi, non ? À mixité choisie, non ?
Non, on a été fermé pendant un an, donc on redémarre. Des ateliers Festival Maker Fest, on a des actions comme ça qui permettent de, on va dire, un peu se signaler.
Merci à vous pour votre participation.
Ouais, on arrive déjà au terme de cette émission.
Merci.
Merci.
Merci pour l'accueil. Et pardon pour nos questions maladroites. Non, elles sont hyper intéressantes. En fait, c'est qu'il y a tellement de questions dans les questions. Tellement de réponses que deux heures et demie.
Oui. Donc, le temps machine et la fun sont à retrouver sur les réseaux sociaux.
Oui. Oui. Instagram, www.letempsmachine.com également. Toutes les infos.
Donc, le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique, peut-être, que je te laisse présenter, Samuel, quelle était ta suggestion ?
Bien sûr, une petite découverte. Hier soir, pendant que j'étais dans mon lit, je voulais laisser carrément se présenter elle-même. Et bonne soirée.
Je suis du R&B Néo Soul et j'ai sorti un projet qui s'appelle Divine Energy Deluxe Version et qui est disponible sur toutes les plateformes et qui est un peu une ode à la reconnexion avec soi-même et le fait de se sentir bien dans sa peau. Et j'ai un morceau que j'adore qui s'appelle Let You Go, qui est le dernier morceau de mon projet. Et je pense que vous pouvez kiffer. Vous pouvez écouter ça. Try to let you go. Something in my mind's coming back, flipping go. None of us were meant to feel this sad. Yeah, yeah, yeah. No, I let you know. I'm learning not to fall for what I used to know. What shape the shadows I can satisfy. I'm sticking to my faith. A gentle smile like Dane before the day says it's okay. I swear I wouldn't fall into this crap. The poison from the one who struck me first has never left my part. There's something in my mind, I try to heal a broken heart. You think you know, but you're not sure. Don't sure you're not the clever one. I rise again and touch the sky. You know I'm just the clever one. You want it all, but I'm enough. You know I'm just the only one. I've seen it all, I'm not afraid. You know I'm just the only one. I'm feeling lost, come back to me. Yeah, I never knew you'd set me free. When you hold my mind and I can't be me. Just one by one, don't make me leave. Try to let you go. Yeah, 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 yeah. Try to let you go. Try to let you go. But something in my soul leads me back. Feel it grow. None of us were meant to feel this sad. No, I let you know. I'm never taking flowers from this spirit hole. The one
one was flirting with the devil guy.